Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Et se dit qu'il n'a aucune chance. Elle lui demande « Et vous ?»«
Moi, je crois être le contraire du pantouflard. Je n'aime que les femmes exceptionnelles parce que je veux vivre d'une façon exceptionnelle. »
Elle lui demande « Et moi, je suis exceptionnelle ?»«
Oui, autrement, je ne vous aurais pas abordé ni proposé ce rôle. Je ne peux tourner des films qu'avec des comédiens que j'aime. J'aime être entouré par la beauté. » Et je suis incapable de faire un film où le héros serait laid ou bête. J'aime mes personnages. Et parce que je les aime, je les veux beaux.
Elle lui demande.
Même les canailles?
Oui, même les canailles.
Elle lui dit.
Donc je vous plais?
Il lui répond.
Oui.
Elle s'étire.
J'ai de la chance. Parce que vous aussi vous me plaisez. Un jour, je vous ai vu de loin. J'ai dit à votre sœur que vous étiez exactement le type d'homme que j'aime.
Il lui dit heureux.
Alors, puisque nous nous aimons,
elle lui dit.
Attendez, je veux en connaître plus sur vous. Ne vous excitez pas tant.
Vous ne me connaissez pas encore.
Vous voulez encore du thé?
Oui, merci.
Elle le sert.
Voilà.
Elle lui dit.
Vous ne connaissez pas? Et j'aurais pu avoir mis du poison dans ce thé.
Il lui dit. Arrêtez ce genre de choses. Cela a été déjà fait des centaines de fois. Le public risque de se lancer.
Et comment pourrais-je leur expliquer mon empoisonnement?
Elle lui dit.
Parce que je veux voler votre scénario?
Il lui dit. Absurde. Il est à la société des auteurs.
Elle réfléchit et dit, pour prendre votre fortune.
Oh, et puis je ne sais pas.
Il a fini de boire son thé et lui dit,
vous êtes très belle.
Je sais, et très désirable.
Vous aussi. Mais ce n'est pas encore l'heure. Je veux lire le scénario. Il regarde sa montre et lui dit. Je dois vous quitter.
Ils se lèvent tous deux. Elle leur accompagne.
Elle se plaque contre la porte d'entrée. Il est pris par son odeur. D'un geste brusque, il la prend dans ses bras et l'enlace en la serrant très fort. Elle baisait, elle lui dit « Vous me serrez trop fort, je ne vais pas partir. Pardon. » Et elle la lâche.
Elle ouvre la porte.
« Revenez, mercredi prochain, même heure. »
Oui.
Lorsqu'il revient la voir, elle accepte le rôle. Elle lui demande « Vous êtes tombé amoureux de moi ?»« Oui, je le sais. Je le suis déjà. » Elle lui dit « Nous verrons bien. Mais vous avez peu de temps parce que le tournage est court. »« Je sais. Alors laissez-moi commencer. »« Certainement pas, mon jeune ami. Je n'ai pas encore signé le contrat. » Trois mois plus tard, le film commence. Comme il n'a pas eu le temps de chercher des finances pour l'argent du film, il le finance lui-même. C'est un gros risque, car si le film ne marche pas, c'est sa ruine. Puis pour la première version, le tournage se faisait chez lui. Là, il a demandé à un ami de son père de lui prêter son appartement. Le tournage se passe bien. Nicolas est aux petits soins pour Nadine, qui se laisse courtiser. Le matin, il va la chercher chez elle, prennent des repas ensemble, il la raccompagne, lui offre des fleurs, des bonbons. Elle lui dit, en souriant, « Vous comportez comme le personnage du film ?» Il lui dit, « J'espère que la fin sera aussi heureuse que celle du film. » Elle lui dit, « Nous verrons bien, mais si elle l'est, elle le sera plus. Pourquoi ? Parce que vous êtes plus jeune et beau, vous. » Il sourit, lui dit, vous allez accepter mon amour, je le sens, et l'oser les épaules. L'équipe du tournage les voit et pense qu'ils ont une liaison. Les jours passent. Il est de plus en plus amoureux. Il le serait moins si elle s'était donnée de suite. L'attente réveille les fantasmes et s'imagine que lorsqu'il l'aura, il verra et aura les choses les plus sublimes. Le pauvre ne se rend pas compte qu'un corps est un corps et que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, c'est-à-dire la même chose que les autres. En plus beau, peut-être, mais rien de plus. La sœur de Nicolas vient le voir. Elle lui demande « Comment va le film ?»« Très bien. » Et l'actrice, elle est merveilleuse. Elle le regarde bien et lui dit « Fais attention, c'est une joueuse. » Ce que vient de lui dire sa sœur le trouble, surtout que le lendemain, c'est la fin du tournage. Toute la journée, il est morose et inquiet. À 18h, le tournage est fini. Comme c'est la coutume, Il y a une petite fête entre les gens qui ont fait le film et quelques amis. La petite fête, toute simple, se déroule sur les lieux du tournage. Un traiteur qui a amené à manger et des boissons, des disques qui tournent, et voilà. Nicolas voit Nadine aller venir rire avec tout le monde. Il se dit qu'elle se comporte comme Claire, la Claire du film. Et lui se comporte comme un soupirant, un vieux et moche soupirant. Il devrait être heureux, le film est exactement comme il le souhaitait. Il est réussi, et Nadine est vraiment Claire.
Il
se dit que peut-être qu'elle est comme elle. Il va vers Nadine et lui dit, vous deviez me donner une réponse, et sourit lui dit, faites-moi danser, nous verrons plus tard. Il la fait danser. Cela le calme de sentir son corps contre le sien. Son odeur.
J'ai déjà rencontré un Européen qui soit encore plus intéressé par l'argent qu'un Américain.
La fête se termine bientôt. Et il le quitte avant la fin de la danse. Il va se mettre dans un coin et ne bouge plus. Elle continue à rayonner.
Nicole. Oui, Franz, vous êtes content de cette soirée?
Oui, bien sûr.
Très agréable. Voulez-vous que nous dansions?
Je voulais vous demander, Nicole, ce que vous pensez.
Oui, je vous écoute.
C'est un propos de Dick.
De Dick?
Enfin, l'heure de se séparer est venue. Ils sont tous vers la sortie. Nadine les dépasse tous et dit, qui vais-je prendre pour me raccompagner? Elle regarde tout le monde autour d'elle. L'on crie « Moi, moi !» Elle rit. Nicolas est furieux. Nadine dit à chaque fois « Non, non, pas vous, pas vous, non, non !» Et puis zut, je rentre seul. Tout le monde est déçu. Nicolas est furieux. Elle embrasse chacun des gens de l'équipe et s'en va. Nicolas bouillonne. Il dit au revoir et les quitte en courant. Une fois dehors, la rue est déserte. Il entre dans sa voiture. Veut aller chez elle. Arrivé chez elle, il voit que la voiture est au bas de son immeuble. Il sort de voiture et va rentrer dans l'immeuble. Monte les escaliers, ça se passe. Sauf. Pas de réponse. Sauf plusieurs fois. Pas de réponse. Rien. Il est furieux. Tape du poing. Nadine, ouvre. Il commence à rager. Il prend son élan et d'un coup d'épaule, il défonce sa porte. Nadine, où es-tu? Où es-tu, Nadine? Il court. Personne au salon. La porte de la chambre est fermée. D'un coup d'épaule,
Il la défonce. La pièce est éclairée par la lampe de chevet. Elle est sur le lit, assise, les jambes repliées. Un drap qu'elle plaque contre elle. Il fonce sur elle. Il arrache le drap. Elle est nue.
L'en prend dans ses bras et l'embrasse.
Tout en l'embrassant, il continue à se déshabiller. Elle se laisse faire. Et même la tire à elle. Elle est heureuse.
Plus tard, ils sont lancés l'un contre l'autre. Elle lui dit « Tu m'aimes vraiment ?»« Oui. » Elle lui dit « Nous quitterons plus. Nous serons toujours comme ça. » Il lui demande « Alors pourquoi toute cette comédie ?»«
Parce que je n'étais pas sûr que tu m'aimes. Maintenant, j'en suis sûr. »
« À cause de ma colère ?»«
Oui. » »«
Parce qu'il n'y a qu'un homme amoureux qui peut se mettre en colère comme ça. »
Serre-moi fort, serre-moi très fort, je t'en supplie. Aime-moi, aime-moi, aime-moi.
Ils vivent ensemble. Le montage du film s'est fait rapidement, tout va bien. Le film est présenté au public avec crainte, car ce n'est qu'un remake d'un film qu'il a défait de cela peu de temps. Mais le film est tellement différent, plus beau, mieux interprété, qu'il a du succès, car le public ne se rend pas compte que c'est la même histoire. Tout va bien, ils sont heureux. Après ce film, Nadine a beaucoup de demandes. Nicolas lui dit « Tu dois vivre, suivre ta carrière sans te soucier de moi. Moi, je ne peux pas te donner tout le temps un grand rôle. » Elle lui répond « Mais si tu en as un pour moi, ne m'oublie pas. »
Elle passe ses journées à lire des scénarios qu'on lui envoie. Et lui cherche un nouveau sujet pour son prochain film. Pour pouvoir vivre et faire vivre son équipe, il ne peut faire autrement. J'ai oublié de vous dire, c'est qu'il habite chez Nadine, mais a gardé son appartement à cause de toutes ses affaires, meubles, dossiers, etc.
Un
Un soir, qu'ils sont au salon, au pied de la cheminée allumée, Nadine lui dit « Je crois que je ferais mieux si d'habiter Paris. » « Pourquoi ? Parce que la plupart des films se font là-bas. À Lyon, il n'y a rien pour les comédiens. » Il lui dit « Moi, je fais bien des films. » « Oui, peut-être, parce que tu les produis et fais comme tu veux. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Je ne pourrais jamais faire une carrière ici. » Il lui dit « Je suis bien ici. » Elle lui dit « Moi, non. Je finis par croire que c'est que tu es égoïste. » « Non, surtout pas. Pardonne-moi. Je peux faire des films n'importe où, moi. Si tu veux, Paris, nous irons là-bas. » Elle l'embrasse sur la joue et lui dit « Merci. Tu comprends, Lyon, ce n'est rien pour un acteur. À Paris, je pourrais faire des tas de choses, enfin m'épanouir. » Nicolas se dit malgré lui « Souhaitons que cet épanouissement ne m'étouffe pas. » Mais il efface cette mauvaise pensée qui lui donne la nausée. Ils font plusieurs voyages à Paris pour chercher un logement. Après de nombreuses recherches, ils trouvent Faubourg Saint-Jacques, un coin de Paris qui fait un peu province, plein de petits hôtels particuliers. Ils en ont trouvé un de ces hôtels près de la Société des auteurs. L'hôtel n'est pas très grand, 18e, deux étages. Il a un petit jardin sur le devant et derrière une pelouse. On se croirait pas à Paris, mais dans une petite ville de province bien française. C'est calme car la rue l'est et pourtant elle est tout près des grands boulevards et du centre. L'hôtel est bien conservé, pas de réparation. Halle de pierre dans l'entrée, au rez-de-chaussée commun, cuisine, etc. Salon au premier, salle à manger, bureau, fumoir, bibliothèque. Au deuxième, les chambres, salle de bain, mercerie. Sous les toits, en mansarde, les chambres des domestiques, si vous en avez. Tout est propre, impeccable. Nicolas est enchanté. Nadine aussi. Car c'est calme, il n'y a rien à faire, tout est bon. La maison coûte cher malheureusement, trop cher pour Nicolas qui est obligé de faire un prêt à son nom avec les garanties de son père qui lui dit « Je te garantis si tu achètes la maison à ton nom et que tu es l'unique propriétaire. » « Faut que j'en parle à Nadine. » Elle lui dit « Aucune importance. » Et il achète. Commence à préparer son départ pour Lyon. Un soir, sa sœur va le voir chez lui.
Il amène dans son salon. Entre.
Assieds-toi. Nicolas lui dit, je pars vivre à Paris avec Nadine. Elle soupire. Tu m'en as pas parlé. Et si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su. Sois pas fâché. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Trouver un logement à Paris, c'est pas une mince affaire. Et puis, mon déménagement. De toute façon, j'ai prévenu personne, ni père ni mère. Elle lui demande. Tu vas te marier avec cette fille? Non, et puis ce n'est pas une fille. Elle est très bien. Et soupire, elle lui dit. Oui. Elle a bien joué son jeu, en tout cas. Jouer à l'amitié avec moi, pour que je te présente, et que toi, tu la lances pour au cinéma. Elle lui dit, ça avait été ça, elle m'aurait laissé tomber. Là, elle veut vivre avec moi, elle lui dit, parce qu'elle a fleuré l'argent, que là, où ses épaules. Tu veux du café? Non, donne-moi un cognac.
Nicolas se lève pour aller chercher au bar qui se trouve dans un coin du salon. Une bouteille et deux verres.
Retourné vers elle, il fait le service. Tu pars quand? Peut-être dans une semaine. Tu me donneras ton adresse? Oui, et tout de suite. Le temps passe. Ils vivent à Paris. Elle accepte de tourner un film et lui en préparer un. Ils sont heureux. Et puis, un soir, il la trouve songeuse. Ils sont tous les deux au lit. Il lui demande. Que se passe-t-il? Elle lui dit, je veux un enfant. Il surpris lui demande, un enfant? Pourquoi faire? Parce qu'une femme, pour qu'elle soit comblée, lui faut un enfant. C'est ridicule à notre époque de penser comme ça. Toutes les femmes militent pour la pilule. Et puis toi, tu veux jouer aux mères poules. Elle pose les épaules et lui dit, j'en ai rien à foutre de ces poufiasses qui manifestent pour la liberté de la femme. Sont toutes des lesbiennes refoulées. Moi, je me sens bien en tant que femme, et mon rôle, c'est de faire et d'avoir un enfant. Il lui dit, c'est ridicule, ta carrière risque d'être interrompue si tu te trouves enceinte. Je m'en fous de ma carrière, moi. Je veux vivre pleinement ma vie de femme et je veux un enfant. Alors, tu m'en fais un? Il lui dit, non, parce que moi, je ne veux pas. Un enfant, c'est autant le père que la mère. La vie du père est aussi en jeu. Elle hausse les épaules et lui dit, tu n'es qu'un égoïste de me faire ça, et toi de vouloir me l'imposer. Nicolas ne veut absolument pas être père. D'ailleurs, il ne se voit pas dans ce rôle. Il s'obstine à lui refuser cet enfant. Elle lui dit un soir, si tu me le refuses, J'en ferai faire un par un autre. Si tu fais ça, je te mets à la porte. Il devient jaloux, car il a peur qu'elle passe à l'action, mais il tient absolument à ne pas lui faire d'enfant. Un soir, à une soirée chez des amis, elle drague outrageusement un jeune homme de taille moyenne, mince, avec des lunettes et une abondante chevelure châtaigne. Il la voit danser avec lui, se plaquer contre lui et lui donner dire des choses à l'oreille. Gola est furieux, la court vers eux, attrape Nadine, elle lui donne une gifle devant tout le monde. Elle se sauve en courant, il la suit. Elle est entrée dans la voiture de Nicolas. Et la mise en marche. Puis Nicolas a appelé un taxi et a donné leur adresse, car il pense qu'elle est entrée chez elle, chez eux. Arrivée chez lui, elle n'est pas là. Il attend toute la nuit en faisant les 100 pas. Si elle m'a trompé, je la tue. Je la tue, je la tue, je la tue. Le matin arrive, toujours pas de Nadine. La journée passe, sa fureur se transforme en inquiétude. Si elle a dû aller vivre chez un autre. Si elle revient, je lui fais une de ces scènes. Et puis, plus le temps passe, je n'ose plus sortir de chez lui. Marche, s'assoit, boit, grignote, la lumière emplote. Au fur et à mesure que le temps passe, lui vient de l'angoisse, il a peur de la perdre, car il l'aime toujours. Il se dit, si elle revient, puisqu'elle veut un enfant, j'en ferai un. Il tient trop à elle. En fin de journée, la deuxième journée de sa disparition, on a sonné à la porte.
Il va ouvrir.
Un agent en uniforme, grand mince, avec une petite moustache blonde. Monsieur Nicolas Graff.
Oui.
Nous avons trouvé votre voiture. Il est surpris. Mais j'ai pas fait de déclaration de perte de véhicule. Veuillez me suivre. Inquiet. Il suit le policier qui le mène vers une voiture de police. Entrez.
Pour aller où?
Vers votre voiture, monsieur. Il entre dans la voiture. Parle de peur.
Que se passe-t-il?
on ne lui répond pas. Et la voiture roule en direction de Versailles. Et là, à la sortie de Versailles, elle s'est arrêtée en pleine campagne. Il y a, à travers la route, un car de police, des motards, une ambulance. Nicolas est sorti de voiture. Un homme, en pardessus gris, mince, cheveux blancs, va vers lui. Monsieur Nicolas Scraff.
Oui, monsieur.
Votre voiture a eu un accident dans la route. Elle est passée sous un camion. Une jeune femme qui la conduisait est morte sur le coup. Vous connaissez cette personne?
Nicolas a la tête qui tourne.
Il me semble que oui. On le mène vers le corps qui est sur une civière. Et recouvert d'un drap. On soulève le drap. Il voit le visage de la ligne. Intact, immobile. Vous la connaissiez?
Oui, c'était mon amie. Nadine Dupin. Il se dit. Elle est morte. Parce qu'elle voulait donner la vie. S'il ne s'était pas disputé à cause de cet enfant qu'elle voulait, elle serait encore en vie. Le destin a voulu qu'elle désire un enfant pour lui retirer la vie.
Nicolas reste frustré, ne voit personne. Il se sent coupable. L'enterrement a lieu. C'est la famille de la jeune femme qui a tout fait. Lui en aurait été incapable. Après l'enterrement, il reste des jours enfermé dans sa chambre, sans rien faire. Puis, il se met à errer dans la maison. Tout ce qu'il voit lui fait mal. Il ne supporte plus de vivre dans cette maison, car tout lui rappelle Nadine, l'accuse. Un après-midi, après avoir passé une nuit terrible, il décide d'aller vivre à l'hôtel.
Il prend son sac de voyage, rempli de vêtements,
et tout ce qu'il faut pour sa toilette. Et va dans un hôtel près de l'opéra, hôtel de grand luxe. Il a pris une chambre. Et là, il reste des jours sans oser faire quoi que ce soit. Toutes les nuits, il a des cauchemars où il revoit Nadine. Il n'a goût à rien, mange presque pas, a envie de mourir. Il maigrit beaucoup. Sursaute au moindre bruit, reste dans le noir. Les jours passent. Le directeur de l'hôtel s'inquiète de ce client qui déprime. C'est un homme gros, chauve. Il se dit, il ne faudrait pas qu'il se suicide dans mon hôtel. Je dois faire quelque chose. Tant pis. Tant pis. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Prends le bottin téléphonique. Il sait que la famille de Nicolas se trouve à Lyon. Prends le téléphone, fais le numéro. Par hasard, il tombe sur la sœur de Nicolas. Bien, j'arrive, monsieur. Et le lendemain, elle va frapper à la porte de la chambre de son frère.
Entrez. Elle entre. La pièce est dans la pénombre. C'est moi, Nicolas, Sylvie. Ah! C'est toi? Qu'est-ce que tu es venu faire? Te voir? Il est clair. Elle le voit, les cheveux défaits, maigre, en slip, mais le corps. Il a les joues rouges. La chambre semble refermée, les volets sont fermés, le lit défait, des bouteilles à terre et du papier d'emballage de gâteau sec. Elle va vers lui. L'embrasse. Je suis heureuse de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici?
Rien, rien.
Elle lui dit, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça.
Et pourquoi?
Parce que ce n'est pas bon pour toi de te laisser déprimer. Il hausse ses épaules et lui dit, je m'en fous.
Pense à ceux qui t'aiment. Fais-le pour eux, il lui dit. On n'a pas à m'aimer.
Et il va s'asseoir sur le rebord du lit. Elle s'assoit près de lui.
Il lui dit, elle est morte, c'est de ma faute. Elle lui prend la main et lui dit, c'est la faute de personne, elle a eu un accident. Il dégage sa main et lui dit, bien sûr toi tu ne l'aimais pas. Peut-être, mais je t'aime. Alors je veux que tu continues à vivre. Je ne peux pas. Nous allons t'aider. Et tu verras. Tu seras mieux. Tu veux que je fasse venir un médecin? Non, surtout pas. Je suis coupable et je ne dois pas guérir. La fatigue du dialogue. Sa faute. Il sent tout tourner. Perd connaissance. Il se réveille et est allongé sur le lit. Sa sœur est penchée sur lui, un homme de taille moyenne au visage ridé. Sa sœur lui demande, tu vas mieux? Tu vas mieux? Il ne peut pas répondre. Il est trop faible. Beaucoup trop faible. Sa sœur lui dit encore, j'ai appelé le médecin, Meunier. Il va t'aider. Le docteur lui dit, jeune homme, vous êtes trop faible et maigre. Vos nerfs sont à vif. Vous avez besoin de soins intensifs, j'aimerais vous prendre dans ma clinique. Pour une cure, d'abord une cure de sommeil. Acceptez-vous de venir chez moi? Que l'un se sent trop faible pour pouvoir protester. Et puis il a dit cure de sommeil. Oui, son corps, son âme désire dormir et ne plus se réveiller. Il dit faiblement. Oui. Le docteur et sa sœur sourient de satisfaction. Le temps lui fait une piqûre pour le remonter, la sort, le nettoie et l'habille. Sortie d'hôtel. Le lecteur et sa sœur sourient de satisfaction. La sœur remercie le directeur d'hôtel qui est devant l'enfant entré. Merci de m'avoir fait.
C'est la moindre des choses, mademoiselle. La moindre des choses.
Il est mené à la clinique qui se trouve vers Châteauroux, une vieille maison familiale au fond d'un parc, la maison de style Napoléon III. La chambre, les chambres sont de vraies chambres individuelles meublées comme des chambres normales avec meubles 19e. Un cabinet de toilette. Les médecins sont en costume. Les infirmières sont discrètes. Les médecins ne viennent voir les patients que deux fois par semaine, s'assoient sur un fauteuil et parlent avec eux. Rien n'indique la maison de santé ou autre. C'est calme, tranquille. On surveille les malades d'une façon discrète. Les médicaments sont apportés avec le repas, mangés dans la chambre, chambre vaste. La nourriture bonne, variée et très abondante. 2 beefsteaks par jour. Dans la propriété, il y a un immense jardin qui donne les légumes qu'il faut. On laisse aux malades leurs affaires. Tout est calme, tranquille. Ils peuvent sortir dans le parc quand ils le désirent. Certains, au bout d'un moment, peuvent passer certaines heures en ville. Un coiffeur vient voir les malades. On tient à ce que les gens s'occupent de leur toilette et leur bien-être. Ne pensent qu'à eux, pour oublier leur peine qui les ont amenés ici. Nicolas a été amené dans une chambre qui donne directement sur la terrasse et le parc. On l'a couché, alimenté et drogué. Il passe des jours à dormir, se réveille pour manger. Toujours dans le cirage, incapable de penser, ne sachant pas quel jour ou l'heure qu'il est. Il est comme une volaille que l'on gave et empêche de bouger pour qu'elle grossisse le plus possible. Et au fur et à mesure qu'il prend du poids, comme il ne peut réfléchir, il sent un bien-être l'envahir. Il reprend des forces. Sa sœur et ses parents viennent le voir une fois par semaine, mais il ne le sait pas car il dort comme un bébé qui profite dans la plus grande plénitude de l'indifférence. Puis, au bout de 40 jours, le médecin décide de le réveiller petit à petit pour éviter que le retour de la vie consciente lui donne un choc et lui rappelle sa peine. Il veut que pendant qu'il reprend sa conscience, petit à petit,
en profiter pour lui parler et le faire parler de ses peines. Comme il ne sera pas tout à fait réveillé, il sera plus simple, cela lui fera moins mal et acceptera la vérité plus facilement sans ça. Tandis qu'en pleine conscience, ce serait plus difficile, il se conduirait, il se raidirait. Donc, le bien-être avec du poids, le demi-sommeil, tout ça va le rendre plus souple pour l'analyse et lui faire accepter la réalité. Nicolas, petit à petit, grâce aux médicaments qui diminuent et qui prend de moins en moins, tout doucement, une heure de moins par jour qu'il dort, au début, on le laisse seul et tranquille, il continue à manger et même beaucoup, car pendant sa cure, comme il dormait tout le temps, il avait très peu d'appétit. Mais là, il mange, reste au lit, on le gave tranquillement et seul. Puis, lorsqu'il reste éveillé plus longtemps, on le fait asseoir sur un fauteuil l'après-midi. Une fois qu'il se sent bien et suffisamment éveillé pour comprendre une conversation, mais il est encore assez faible pour tout refuser ce qui fait mal, le docteur va le voir un quart d'heure par jour en fin d'après-midi, s'assoit à côté de lui et lui demande comment il va, reste de longs moments silencieux, puis petit à petit lui parle de sa vie et un jour arrive à Nadine. Nicolas est trop faible pour refuser cette conversation. Il est trop faible pour ne pas répondre. Le médecin y va doucement. Un peu chaque jour, un quart d'heure, une demi-heure, pas plus. Puis il laisse Nicolas seul réfléchir à ce qu'il vient de se dire. Radio Canut vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 13e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.